toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du vendredi 13 septembre 2024. Voici le sommaire.
Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promis.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé hier soir la dissolution de l'Assemblée nationale, une institution dominée par une majorité mise en place par son prédécesseur. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, membre de la coalition au pouvoir, menace de se retirer du gouvernement pour protester contre une loi sur l'éducation que doit promulguer le président Cyril Ramaphosa. Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition se sont réunis jeudi en Assemblée constituante pour examiner un projet de nouvelle constitution. Le président russe Vladimir Poutine agite le spectre d'une guerre avec les pays de l'OTAN si l'Ukraine frappe en profondeur le territoire russe avec des missiles fournis par les Occidentaux. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a fixé des élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Les précisions avec Gaby Dorsil.
Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat, a déclaré à la télévision nationale le chef de l'État de 44 ans. Selon lui, les blocages des derniers jours à l'Assemblée l'ont convaincu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire était une illusion. La précédente législature, élue en 2022 et dominée par le camp de l'ancien président Macky Sall, lui était en effet hostile. Chantre d'un panafricanisme de gauche et de souverainisme, le nouveau pouvoir suscite d'immenses attentes parmi la jeunesse de ce pays ouest-africain où les trois quarts de la population ont moins de 35 ans. Mais les nouvelles autorités n'ont toujours pas engagé le chantier majeur, certains justifiant cette inaction par l'absence de majorité au Parlement. Pour l'opposition, le nouveau régime n'a pas de projet politique et gouverne sans direction.
Le verdict dans le procès de la tentative de coup d'État que l'armée de la République démocratique du Congo dit avoir déjoué en mai doit être prononcé ce vendredi par un tribunal militaire. La lecture du jugement pour 51 prévenus au total doit commencer en milieu de matinée à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Le procès se tient depuis début juin dans l'enceinte de cette prison de la capitale congolaise où les accusés sont incarcérés. Parmi eux figurent 6 étrangers dont 3 Américains, un Congolais naturalisé belge, ainsi qu'un Britannique et un Canadien, eux aussi naturalisés Congolais. La peine de mort a été requise contre les accusés, excepté un prévenu atteint, selon un rapport médical, de troubles psychologiques. En Afrique du Sud, la coalition gouvernementale dirigée par le président Cyril Ramaphosa traverse sa première crise. Moins de 3 mois après sa formation, le chef de l'Alliance démocratique, principal partenaire du Congrès national africain, n'a pas exclu de se retirer du gouvernement. Le projet de loi sur l'éducation du président Ramaphosa est au cœur des tensions. Eric Maniakiza.
Le président ne devrait pas promulguer la loi, a déclaré John Steenhuisen. Lors d'un discours au Cap, le chef de l'ADA a expliqué qu'il avait rencontré Cyril Ramaphosa pour discuter de la situation, mais a prévenu que si le président persiste, l'ADA devra examiner toutes les options à suivre. Le projet de loi sur l'éducation est contesté par certains qui estiment qu'il confère trop de pouvoir au gouvernement au détriment des établissements scolaires, notamment en matière de langue d'enseignement. Cela inquiète la minorité africanaire, une base électorale importante de l'ADA, qui craint pour l'avenir de sa langue, l'afrikaans. L'ADA insiste également sur l'importance de faire respecter ses priorités au sein du gouvernement. Steenhuisen a averti que sans soutien de l'ADA au Parlement, le gouvernement n'a pas de majorité, rappelant que la stabilité de la coalition repose en partie sur l'appui de son parti. Toutefois, il a tempéré ses propos en expliquant que les divergences politiques sont normales dans une coalition multipartite, soulignant que cela ne menace pas nécessairement l'existence même du gouvernement. Le président Ramaphosa a de son côté tenté d'apaiser les esprits, affirmant que tous les partis de la coalition, lors d'une réunion informelle, avaient confirmé que le gouvernement d'union nationale était vouée à perdurer.
Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition se sont réunis hier jeudi en assemblée constituante pour examiner un projet de nouvelle constitution, première étape vers le retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires après le coup d'état de 2023 qui a marqué la fin de la dynastie Bongo. La nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, avec obligation pour tout candidat d'être né de parents gabonais. Le texte qui n'a pas encore été rendu public consacre aussi le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différent, rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle du pays. Les parlementaires auront 10 jours pour rendre un avis motivé selon un décret présidentiel paru mercredi au journal officiel. L'Occident ne doit pas abandonner l'Afrique alors que le monde fait face à une pandémie de Mpox. C'est ce qu'a fait savoir le chef de l'organe de surveillance sanitaire de l'Union africaine qui a appelé les Occidentaux à tirer les leçons de la pandémie de COVID-19, Yacouba Ouédraogo.
Le Centre africain de contrôle des maladies, Africa CDC, a indiqué n'avoir pas atteint l'objectif de rassembler 600 millions de dollars pour lutter contre le virus, désormais présent dans 14 pays africains. Pour y parvenir, il est temps que les pays occidentaux montrent qu'ils ont tiré les leçons du Covid, a déclaré son directeur Jean Kaseya, se disant optimiste sur ce point. Nous ne voulons pas revenir demain vers eux pour leur dire « Vous avez encore abandonné l'Afrique », a-t-il ajouté. En août, l'Organisation mondiale de la santé a décrété le Mpox urgence internationale, préoccupée par l'augmentation du nombre de cas de la nouvelle souche CLAB 1B en République démocratique du Congo. Justement, RDC, épicentre de l'épidémie, près de 22 000 cas et 716 décès liés au virus ont été enregistrés depuis janvier, selon les autorités locales. M. Kaseya a souligné que le dépistage reste un problème majeur et qu'il devait augmenter pour mieux suivre l'évolution de l'épidémie. Jusqu'ici, quelques 200 000 doses de vaccins ont été livrées à la RDC par l'Union européenne et environ 50 000 par les États-Unis. Le Japon a promis quelques 3 millions de doses.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine agite le spectre d'une guerre avec les pays de l'OTAN si les Occidentaux autorisent l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe avec les missiles à longue portée qui lui ont été livrés. La question est au cœur des débats chez les alliés de Kiev. Alexandre Nholognon.
Interrogé sur un éventuel feu vert occidental pour ce type de frappe par l'Ukraine, Poutine a estimé que cela ne signifierait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Ces déclarations interviennent alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est trouvé mercredi en Pologne au lendemain d'une visite à Kiev et à la veille d'une rencontre sur la question entre le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer. L'Ukraine veut une plus grande liberté d'action pour utiliser les missiles livrés par le Royaume-Uni et les États-Unis, des armes d'une portée maximale de plusieurs centaines de kilomètres qui lui permettraient d'atteindre des sites de l'armée russe et des aérodromes d'où décollent ces bombardiers. Zelensky a critiqué jeudi le retard des Occidentaux sur la question. Washington n'a pour le moment annoncé aucun changement dans les règles d'utilisation des missiles livrés à l'Ukraine, mais dit réfléchir à une inflexion de sa politique sur ce sujet.
Ici aux États-Unis, l'ancien président et candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre, Donald Trump, a rejeté l'idée d'un nouveau débat avec sa rivale démocrate, alors que tous deux continuaient de faire campagne dans les États décisifs. Il n'y aura pas de troisième débat, a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social, en comptant son échange télévisé en juin face au président Joe Biden, alors encore candidat, en plus de sa confrontation mardi avec la vice-présidente Kamala Harris. En campagne en Caroline du Nord, un État où elle compte sur les Afro-Américains et des jeunes pour l'emporter face à M. Trump, la démocrate de 59 ans a au contraire jugé que les électeurs méritaient un second débat. L'Assemblée générale de l'ONU se réunira à partir de mardi pour examiner une proposition de résolution palestinienne donnant suite à l'opinion de la Cour internationale de justice qui a jugé illégale l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Le dernier projet de résolution exige qu'Israël cesse sans délai sa présence illégale des territoires palestiniens et que ce soit fait dans les 12 mois suivant l'adoption de cette résolution. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Kalani.
La société égyptienne de transport d'électricité et le développeur norvégien d'énergie renouvelable, Scatec, ont signé un contrat d'achat d'électricité de 25 ans pour le premier projet solaire hybride avec stockage par batterie d'Égypte. Il concerne une centrale solaire de 1 gigawatt et un projet de stockage par batterie de 100 mégawatts. La construction du projet doit commencer au premier semestre 2025. Le mineur sud-africain Sibanye Stillwater va réduire presque de moitié sa production américaine de platine et de palladium en 2025, entraînant la suppression d'environ 800 emplois en raison des faibles prix des métaux qui lui ont causé des pertes au premier semestre. Les emplois supprimés représentent près de la moitié de ces travailleurs miniers aux États-Unis. Les mines américaines produisent principalement du palladium, dont les prix ont chuté de 40% l'an dernier. Pour terminer, ici aux États-Unis, une centaine des plus grandes entreprises réalisant plus d'un milliard de dollars annuels de bénéfices vont bientôt être soumises à un impôt minimum de 15%. Cette mesure prévue par la loi climat de Joe Biden de 2022 devient effective grâce à la publication ce jeudi des règles d'application par le Trésor. Elle devrait générer 250 milliards de dollars sur 10 ans. Elle portera sur les revenus déclarés dès 2023 rétroactivement puisque la loi avait été adoptée.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Début ce vendredi du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF.
En Coupe CAF, les Ghanéens de North Freeman se déplacent chez les Algériens de Constantine. Les Burkinabés de l'Étoile filante de Ouagadougou font face au Nigeria d'Enimba. Les Ivoiriens du Racing Club d'Abidjan reçoivent les Sénégalais de Jaraf. Match à domicile aussi pour les Congolais de l'AS Vita Club qui font face aux Sud-Africains de Stellenbosch. La Ligue des Champions, Sagrada de l'Angola reçoit les Nigériens de Nungu. Les Tunisiens de Monastir accueillent les Algériens de MC Alger.
Toujours en Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club de Bamako affronte Asco de Kara du Togo.
Cette rencontre se jouera demain samedi au stade du 26 mars de Bamako. Le coach des Maliens, Demba Traoré, dit être prêt.
C'est un match aller-retour, donc l'aller chez nous, je pense qu'il sera très important de faire un très bon départ. Et on va travailler dessus pour que ce jour-ci soit ce que nous recherchons. L'objectif sera sans nul doute de se qualifier pour la phase des poules. Oui, nous pensons avec ce que nous avons sous la main, c'est une équipe de football, c'est une continuité, c'est un groupe d'ensemble qui est là, c'est une direction qui est là, c'est un ensemble de supporters. Donc je pense qu'on va compter tout ceci avec ce que nous faisons sur le terrain pour arracher la qualification. On a quelques soucis avec deux joueurs et nous allons les récupérer d'ici samedi, Inch'Allah. Nous les appelons tous, pas facile de remplir le stade du 26 mars, nous le savons. Nous demandons au public sportif malien de sortir massivement pour nous aider à franchir cette étape.
Demba Traoré, coach du Djoliba AC de Bamako, au micro de notre correspondant dans la capitale malienne, Siaka Traoré.
Le PSG ne payera pas les 55 millions d'euros d'impayés à Kylian Mbappé.
Le Paris Saint-Germain a annoncé qu'il ne verserait pas les 55 millions d'euros d'impayés que la Ligue de football professionnel lui a ordonné de verser à Kylian Mbappé, prévenant que le joueur devrait saisir une autre juridiction. Mbappé avait saisi la commission juridique de la LFP qui s'est réunie mercredi en présence des deux parties. La commission a d'abord préconisé une médiation, mais face au refus du joueur à demander au PSG de payer les 55 millions. Dans la foulée de cette annonce, le club a indiqué dans un communiqué que l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction. Avant la décision de Mbappé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le joueur avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG en août 2023, après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois. Mbappé demande le versement des 55 millions d'euros, qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature, 36 millions d'euros bruts, que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat avril, mai, juin, ainsi qu'une prime éthique sur ces trois mois. Selon le club, cette demande du joueur revient à ne pas respecter l'accord verbal passé en août 2023.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. 266 réfugiés burundais qui avaient fui après la tentative de coup d'État de 2015 ont été rapatriés d'Uvira dans l'est de la RDC. Le rapatriement n'avait plus eu lieu depuis quelque temps à cause de la montée des eaux du lac qui submergeait la route à la frontière entre le Burundi et la RDC. Eddy Sango a joint à Uvira le responsable intérimaire de la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC dans le sud Kivu, Jules Lesch-Manda.
On a rapatrié 74 ménages de 276 personnes. Ils proviennent du territoire de Fizi, où il y a un camp de Mulungwe. C'est depuis hier qu'ils sont venus à Uvira, dans un centre de transit ici. C'est aujourd'hui qu'on les a rapatriés vers leur pays d'origine.
Et c'est depuis combien de temps que ces réfugiés étaient en RDC et pourquoi avaient-ils fui leur pays?
La plupart sont venus en 2015.
Maintenant que vous les avez rapatriés, c'est certain qu'ils avaient fui pour raison d'insécurité. Est-ce que leur sécurité est assurée au Burundi?
Oui, le rapatriement est volontaire. Les réfugiés, quand ils viennent de leur pays, ils nous disent qu'ils ont fui la persécution. C'est eux-mêmes qui ont compris qu'ils sont persécutés. Étant en RDC, en fait, ils ont évalué la situation sécuritaire chez eux. C'est à eux-mêmes de vérifier comment ils se sont décidés de rentrer. On peut supposer que pour eux, la sécurité est bonne. Nous sommes un État, nous sommes un pays indépendant. Nous n'allons pas vraiment aller vérifier s'ingérer sur la politique interne du Burundi. Tout ce que nous savons, en 2015, il y a eu une perturbation politique, il y a eu des vagues de réfugiés qui sont venus, ce sont des décès en RDC. C'est tout ce que nous connaissons. Voilà, nous connaissons qu'il y a eu un problème lié au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Tout a bâclé là-bas. Et voilà, maintenant qu'il est juste pour de rentrer, on suppose qu'ils ont évalué que chez eux, il y a la sécurité. Parce qu'il y a des missions même de Gouen visite qui proviennent du Burundi pour sensibiliser leurs compatriotes au retour. Voilà, c'est qu'ils ont compris le message du Burundi. Voilà, ils se sont décidés pour être.
Et au Burundi, comment va se faire les réinsertions? Où arrivent-ils? Qu'ils vont-ils faire?
Bon, nous avons le cadre juridique qui nous lie pour le rapatriement. Nous faisons des réunions transfrontalières ou le tripartite où nous définissons les conditions de retour. Je pense qu'ils seront intégrés très bien à travers les ACR et nos collègues du gouvernement burundais. Je pense que tout va bien se passer. Ça, c'est à leur niveau qu'il faut bientôt peut-être plutôt demander. Mais on a commencé le rapatriement. Il y a longtemps, on suppose que tout va pas bien.
Donc ça, c'est une énième vague des rapatriements.
Pour cette année, c'est le deuxième rapatriement parce qu'on a eu des blocages au niveau de la route. La route d'Uvira vers Fizi a connu des problèmes. Il y a eu la montée des eaux qui empêchait qu'on fasse le rapatriement. Maintenant que les eaux ont baissé, voilà, nous avons repris. C'est le deuxième convoi.
C'était Jules Lesch-Manda, responsable intérimaire de la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC dans le sud Kivu.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Des délégués de plus de 30 pays africains et des États-Unis ont conclu un sommet de deux jours au Nigeria sur l'intelligence artificielle afin de promouvoir le développement et le déploiement sûr de l'intelligence artificielle en Afrique et au-delà. Timothy Obiezu revient sur cette rencontre, fruit d'un partenariat entre les autorités nigérianes et les États-Unis. Le récit est de Alexandrine Holognon.
La conférence panafricaine de deux jours sur l'intelligence artificielle organisée conjointement avec les États-Unis s'est achevée mercredi à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Des centaines de délégués, dont des fonctionnaires, des leaders technologiques, des leaders politiques, des universitaires et entrepreneurs ont participé à la conférence pour discuter du développement et de l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables en Afrique. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, s'est exprimé lors du sommet sur les opportunités.
A global technology revolution is well underway.
Une révolution technologique mondiale est en cours. La course au développement et au déploiement de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, façonne déjà tous les aspects de notre vie. Notre objectif est de favoriser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique en matière de recherche sur l'intelligence artificielle.
La conférence constitue une étape importante pour l'avenir technologique de l'Afrique. M. Campbell a déclaré que l'intelligence artificielle pouvait être utilisée pour résoudre des problèmes tels que la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'énergie et le changement climatique.
I cannot overstate Africa's growing importance in the global technology.
Je ne saurais trop insister sur l'importance croissante de l'Afrique dans le paysage technologique mondial. La stratégie historique de l'Union africaine en matière d'IA établit la feuille de route permettant aux pays africains d'exploiter le potentiel de l'IA pour réaliser leurs aspirations en matière de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, de la paix et de la sécurité, ainsi que de la bonne gouvernance.
En juillet, l'Union africaine a lancé la stratégie d'intelligence artificielle du continent, affirmant que l'IA est essentielle pour transformer l'Afrique en centre technologique mondial, et elle a appelé les États membres à adopter la stratégie. Mardi, le ministre nigérian de la communication, de l'innovation et de l'économie numérique, Bosun Tijani, a annoncé l'octroi d'une subvention de $61,000 aux start-up nigérianes les plus brillantes dans le domaine de l'IA.
Pour que nous puissions véritablement exploiter l'intelligence artificielle au profit de nos avantages collectifs, nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons simplement veiller à ce que notre parcours de transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain.
L'Afrique représente actuellement 2,5% du marché mondial de l'IA. Selon l'organisation Artificial Intelligence for Development Africa, mais les analystes affirment que si l'on parle davantage d'une utilisation sûre, les applications de l'IA pourraient stimuler l'économie africaine de $2,9 milliards d'ici 2030, les marchés du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Nigeria prenant la tête du peloton.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, environ 8 millions de jeunes vont avoir 18 ans cette année, l'âge de voter. Près de 41 millions de membres de la génération Z, les personnes âgées de moins de 27 ans, pourront voter lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. Rosine Munezero nous en dit plus.
41 millions de jeunes américains âgés de 18 à 27 ans pourront voter en novembre prochain. Et ils peuvent faire la différence, non pas en raison de leur âge, mais de ce qu'ils sont. William Frey, de l'Institut Brookings.
La partie la plus jeune de la population sera beaucoup plus diversifiée sur le plan racial que la population plus âgée des baby boomers.
Alberto Medina, de l'Université Tufts.
Près de la moitié des jeunes de la génération Z sont des jeunes de couleur et environ un cinquième d'entre eux s'identifient comme homosexuels d'une manière ou d'une autre. Il s'agit donc d'une génération très diversifiée, non seulement en termes d'identité, mais aussi en termes de parcours, d'expérience et de points de vue.
Historiquement, les jeunes votent moins que les adultes plus âgés, mais cette jeune génération se montre plus active politiquement que les autres générations au même âge. Alberto Medina.
L'un des faits marquants des derniers cycles électoraux a été la forte augmentation du taux de participation des jeunes aux élections. Nous estimons que 39% d'entre eux ont voté en 2016 et 50% en 2020.
En ce qui concerne les législatives de mi-mandat, des élections où la présidence n'est pas en jeu, les jeunes d'aujourd'hui ont été plus actifs que les générations précédentes lors des premières élections de mi-mandat pour lesquelles ils pourront voter. 28% des jeunes électeurs admissibles ont voté en 2018. C'est plus du double du taux de participation des jeunes lors des élections de mi-mandat de 2014. 23% ont voté en 2022. Selon Medina, les jeunes électeurs sont motivés par des questions qui les touchent directement, comme les fusillades dans les écoles et l'économie.
Nous parlons vraiment d'une génération de jeunes qui a pris conscience de son pouvoir, de son désir de changement et qui l'a concrétisé à la fois dans les urnes et au-delà.
Lors des élections de mi-mandat en 2022, les jeunes ont voté pour les démocrates plus que pour les républicains. Mais les jeunes femmes ont voté pour les démocrates à un taux plus élevé que les jeunes hommes. William Frey.
Et si Kamala Harris les incite à voter, ils voteront probablement plus fortement pour elle que Joe Biden.
Pour la présidentielle cette année, des sondages récents suggèrent que la vice-présidente Kamala Harris dévance légèrement l'ancien président Donald Trump parmi les électeurs les plus jeunes.
This is the voice of America, Washington, d'ici.
On reste aux États-Unis où, selon Feeding Africa, un réseau de banques alimentaires, les Américains gaspillent environ 41 milliards de kilogrammes de nourriture chaque année, ce qui représente environ 145 milliards de repas. Mais il existe de nouveaux moyens technologiques pour s'assurer que cette nourriture parvienne aux personnes qui en ont besoin. Valdia Baraputri de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Michel Joseph.
C'est la nuit à Washington et les employés de Rasa, un restaurant indien, préparent des commandes à emporter. Mais, fait unique, les clients ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Ils ont commandé en se basant uniquement sur le prix, sans choisir un plat spécifique du menu. Raoul Vinod, co-directeur général de Rasa.
Nous proposons davantage de plats chauds, en particulier certaines des protéines qui ne sont pas aussi fraîches lorsqu'elles sont réchauffées le lendemain, de sorte que les clients peuvent mélanger ces ingrédients.
Les plats ont été commandés via une application mobile appelée Too Good To Go, littéralement « trop bon pour être jeté », qui met en relation des restaurants, des cafés et des supermarchés avec des utilisateurs désireux d'acheter des aliments, souvent proches de leur date de péremption, à des prix très réduits. Ce bol de Rasa coûte normalement entre 10 et 13 dollars. Grâce à l'application, il coûte 6 dollars et demi. Raoul Vinod, co-directeur général de Rasa, affirme que les propriétaires de restaurants ne gagnent pas beaucoup d'argent sur ces commandes, mais que c'est mieux que de jeter de la nourriture. Et un autre avantage, cela permet d'attirer de nouveaux clients.
Nous avons beaucoup de nouveaux clients qui nous découvrent en ouvrant simplement l'application et en explorant les options disponibles autour d'eux.
Too Good To Go a été lancé au Danemark en 2015, mais s'est désormais étendu à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Chris McCauley, vice-président de la Société pour l'Amérique du Nord, indique que la plateforme compte aujourd'hui environ 8 millions d'utilisateurs aux États-Unis.
Nous avons un grand groupe d'utilisateurs qui utilisent vraiment ce service pour nourrir leur famille. Et puis nous avons aussi des utilisateurs qui adorent vraiment l'aspect des déballages associés à cela.
Lorsque les aliments doivent être jetés, une solution pratique se présente sous forme d'application. À New York, environ 400 bacs de compostage intelligent, pilotés par ces applications, sont en service. Ils permettent de recycler les restes alimentaires et de prévenir leur accumulation dans les poubelles. Selon le ministère américain de l'Agriculture, environ un tiers des aliments aux États-Unis ne sont pas consommés et se retrouvent dans les poubelles. Chris McCauley de Too Good To Go souligne que l'utilisation ou la réutilisation d'un maximum de cette nourriture non consommée devrait être un objectif national.
Il ne s'agira pas seulement d'une réponse purement politique. Il ne s'agira pas uniquement de changements de la part des entreprises. Il ne s'agira pas simplement de changements de comportement chez les consommateurs. C'est la somme de nos progrès sur tous ces aspects qui fera la différence.
La nourriture jetée n'est pas seulement un gaspillage, elle engendre également des effets néfastes pour le climat. En se décomposant, les aliments produisent du méthane, un des gaz à effet de serre les plus puissants.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Mpa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute du programme de VOA Afrique. À très bientôt.